cadre de famille, du manoir familial, disons. Non. Cela, ce sont des prétextes fondamentaux. Cela, c'est précisément des connivences. La chose est en vous. Elle n'est pas dans la nature autour de vous. Et si vous n'aviez pas un thème qui s'y prêtât, la famille que vous avez, vous n'y comprendrez rien. Elle vous offrirait ces choses-là, mais vous ne comprendriez pas ce qu'elle vous offrirait. Il y a toujours l'analogie entre ce qui se passe en vous et le cadre que vous avez. C'est toujours l'analogie, la correspondance. Mais je répète, pour parler de l'inconscient au cancer, et c'est précisément pour tout ce qui est de nos émotions, quand nous sommes sous leur empire, ça veut dire que nous n'avons pas conscience qu'ils sont, elles, sous notre empire. Et que c'est cette conscience qu'elles sont sous notre empire, et non pas nous sous son empire, qui représente dans son essence l'inconscient du cancer. L'inconscient du cancer. Alors, voyez qu'il faut la balance, c'est-à-dire le signe d'air en quadrature droite, et qu'il faut que la balance travaille, et qu'elle va d'ailleurs travailler. Elle le fera d'autant plus qu'il y a une planète là, pour vous sortir de l'inconscient, de cet inconscient qui consiste à vous laisser dominer par vos émotions, à vous maintenir encore dans un état germinatif. Et naturellement, l'état germinatif, plus il est germinatif, et plus il reste germinatif, moins il est un état conscient. Parce que la conscience réelle commence après la germination. La conscience, c'est déjà une couronne. C'est une couronne, la conscience. Et c'est une couronne qui... D'ailleurs, on n'a qu'à voir la croissance de l'enfant dans l'adolescent. C'est déjà une couronne, c'est votre tête. Alors, la balance, maintenant, parlons un peu de la balance sous un autre angle, et vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. En réalité, pour notre malheur, notre bonheur ou notre malheur, il se trouve que nous sommes des êtres terriens. Par conséquent, nous sommes régis par un système astronomique formel, magnifique et formel, à savoir que nous avons un satellite, la Lune, qui nous tourne autour. Ce satellite, la Lune ici, a son point de départ zéro du cancer, au pied de la croix cardinale. Elle est là en état de conjonction avec le germe, et la conjonction avec le germe ne pose aucun problème, c'est le départ de quelque chose. Mais la Lune est toute puissante, et c'est juste qu'à ce moment-là elle soit toute puissante, c'est juste qu'elle soit toute puissante. On le voit avec le tout petit nourrisson à peine né dans les bras des soins de sa mère. L'émotion chez l'enfant est le 9e de l'enfant. Il en est accablé de ses émotions. Il en est tellement riche, mais précisément parce qu'il en est riche, quelque chose s'éveillera maintenant dans son être. Et graduellement, c'est l'être qui s'empare du réseau des émotions et qui grandit. Alors, la Lune, regardez bien le tableau astronomique. La Lune est là, dans le cancer, qui est l'heure de minuit. Elle est là, le plus loin du Soleil possible. Du Soleil. La Terre est entre elle et le Soleil. C'est la puissance maximale de la Lune. À ce moment-là, elle doit avoir tous les droits et elle doit jouer son rôle. Elle les accepte, ces droits. Elle passe là à minuit. Mais maintenant, et elle doit tourner. Elle va tourner d'un quart de cercle. Si elle tourne d'un demi-cercle, elle va se trouver entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire qu'elle sera dans le Capricorne. Elle entre maintenant dans le monde des rapports qui sont ceux de la Terre avec le Soleil. Ça, c'est une autre histoire. Elle-même se trouve partiellement soumise à ce rapport. Sa puissance en est diminuée d'autant, et une autre puissance en est augmentée d'autant. La puissance solaire est augmentée d'autant. C'est un rythme régulier de tous les mois. Mais remarquez que lorsqu'elle arrive à zéro de la balance, qu'elle a pris l'extension maximale possible depuis zéro cancer à zéro balance, qu'elle est dans son premier quartier, probablement dit, typiquement premier quartier, c'est le moment de sa puissance suprême. Car dès que ce quartier sera passé, sa puissance va commencer à diminuer. Donc la balance sert d'extension maximale à la puissance de la Lune. Et alors demande à Sindhai, parce que c'est dans le cancer, zéro cancer, vous avez conjonction. Or, dans la conjonction, les cindères ne peuvent pas fonctionner. L'identification est la négation du signe de relation. Alors, le signe de relation, c'est le cindère. L'identification signifie identification. Là où il y a identification, il n'y a pas relation. Là où il n'y a pas relation, il n'y a pas de mentalité, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de mercure. Lorsque vous faites monter la Lune au zéro de la balance, elle est sur l'équateur du thème. Elle est réellement en astronomie sur l'équateur à ce moment-là. Alors, à l'équateur, c'est l'équinoxe aussi, où la nuit va maintenant céder au jour. Mais la dernière heure de la nuit est une heure puissante, très puissante. C'est l'équateur, c'est toute la puissance ici maximale de la Lune. Mais alors, c'est le moment où la possibilité d'établir un rapport entre la Terre et la Lune à la lumière du Soleil est totale. À ce moment-là, Mercure fonctionne. Et voilà le cylindre de la balance. Le Mercure, là, se déploie dans toute son ampleur et saisit le rapport, alors, cette fois-ci, entre cette Lune et cette Terre. Quand il a saisi ça, il extrait du cancer, c'est-à-dire il extrait de lui-même ce qu'il ne savait pas qu'il avait, puisqu'il a découvert qu'il avait le Mercure qui pouvait comprendre le rapport. Il a compris le rapport. Et à mesure que tous les mois il comprend ce rapport, ou à mesure que la Lune passe dans la balance, et alors c'est comme ça dans les thèmes, évidemment, c'est surtout dans les thèmes. À mesure qu'il en extrait le rapport, il s'extirpe de l'inconscient du cancer. Il garde ses émotions, il en a la valeur, mais il en devient le maître. Il en devient le maître. Et c'est le signe qui lui permet le départ d'une maîtrise. Voilà pourquoi les gens qui ont des planètes, beaucoup de planètes dans le cancer, et qui n'ont pas de planète dans la balance, et qui n'ont pas la maîtrise de la balance Vénus, si par hasard cette maîtrise est elle-même dans l'eau du cancer, resteront toujours dans un certain état d'infantilisme par rapport à leur relation avec leurs semblables, parce que c'est la balance. Il n'y aura jamais parité exacte, parité donc intelligente entre toi et moi, si j'ai 5 planètes, 4 planètes dans le cancer, y compris le maître de ma 7e maison, si je n'ai aucune planète en 7 pour faire extraction du cancer, et je resterai toujours dans un état germinatif, encore un potentiel, donc cancer, et pas encore un actuel vrai balance. Car ce que je jetterai dans la compréhension de l'autre, donc dans la balance, ne sera qu'infinitésimal, j'y aurai encore une intelligence enfantine par rapport à ce que tu es par rapport à moi. Tu me fais comprendre? Alors, comment? Oui.
En étudiant son thème sur le balance, ce rôle joué par les quadratures tant sur balance doit-il être pris dans la fonction de l'univers actuellement, en fonction des signes ou en fonction d'une maison?
Non, en fonction des signes.
En fonction des signes.
Oui, attention maintenant.
Là, il y a un mélange.
Oui, vous avez tout à fait raison. Madame demande si vous devez qu'on doit comprendre ceci en fonction des signes ou en fonction des maisons. Je réponds immédiatement. D'abord, comprends ça en fonction des signes. Te rappeler aussi que les signes sont homologues des maisons, en principe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en réalité, le signe et la maison, c'est la même chose. Mais ça, c'est dans le principe, c'est l'homologue du principe, n'est-ce pas ? Vous avez la balance en deux, ça reste toujours la balance. Ça reste toujours la balance. Cependant, ce n'est pas la balance. Et c'est là tout l'art suprême de l'interprétation. C'est tout l'art suprême de l'interprétation. Et c'est ça d'ailleurs qui fait l'infinie variété des êtres humains, des types humains, l'infinie variété des types humains. Mais alors, plus important, sachez que quel que soit le signe sur cette, c'est toujours la balance. Parce que la maison représentera, à défaut d'avoir le signe proprement dit homologue, elle représentera de cette façon-là, par l'élément qui s'y trouve, la planète qui en a la maîtrise, elle prétendra devoir, dans cette existence, jouer le rôle de la balance par rapport à la quatrième maison, qui peut fort bien ne pas être le cancer non plus.
Avec la coloration du signe.
Mais voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez très bien ne pas avoir le cancer pour 4, la balance pour 7, mais quoi que ce soit, c'est la 4. Et vous verrez toujours que le monde de vos émotions sort de votre 4. Il n'y a pas à s'en tirer. Seulement, elle sortira selon le signe qui est là et l'élément qui est là. Et il est très évident que si vous avez le Capricorne pour 4, eh bien, ce sera une émotion très saturnisée, ou très contrainte, ou mise dans un frigorifique. Le Capricorne pour 4, ça a un peu la fonction du réfrigérateur, du frigo, à moins que le Saturne soit merveilleusement soutenu dans l'opération. Alors, votre question est très importante, je me fais bien comprendre. Vous aurez des maisons, c'est ça qui compte, ici, dans la pratique. Mais la maison a la valeur, proprement dite, de ce que théoriquement le signe normal serait là. Seulement, il y aura la nuance, ça sera joué, le jeu sera joué par le signe qui est là à la place. Vous avez des quantités de thèmes, où vous aurez la balance sur l'ascendant, par exemple, et le bélier pour 7, alors le cancer sur 10. Alors, vous voyez la version parfaite. Alors voilà, vous voyez que le monde est votre matrice, que le monde est le berceau de vos émotions. Que vous, littéralement, vous n'êtes pas les pieds dans votre berceau, vous portez votre berceau sur votre tête, comme un bonnet d'osier, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Votre berceau, vous le portez sur votre tête, et que vous demandez au monde, au-dessus de vous, et que vous dites au monde, prends mon berceau, j'ai besoin de toi, monde, j'ai pas besoin de ma famille, j'ai besoin du monde. Alors c'est une identification avec le monde. Cancer pour 10. N'est-ce pas ? Et mettons encore, et surtout, comme ce serait normal pour vraiment comprendre l'histoire, mettez cancer pour 10, lune en 10. Parce que normalement, la grosse affaire ici, je suis en ce moment-ci, je cherche à vous donner un cours de charpente théorique dont les thèmes ne sont que des applications à variantes infinies. La charpente théorique, c'est la Lune zéro cancer. Donc, vous aurez zéro cancer, milieu du ciel, et vous aurez la Lune, là. Eh bien, vous n'avez qu'à voir tout de suite ce que ça donne. Vous n'avez qu'à voir ce que c'est qu'une Lune dans le cancer en 10. Ben, mon Dieu, si elle serait là, j'aime autant vous dire que vous ne vous décrocherez jamais de votre monde, de votre société, quelle que soit. Votre société sera pour vous votre famille, puis il n'y a rien à faire. Et que vous en vivrez tout le temps, n'est-ce pas? Et que vous serez un enfant du monde. Et vous serez un enfant de la ville, si vous voulez. Mais non pas un enfant de votre famille. La ville vous reconnaîtra comme l'un des siens. Et votre famille vous vomira.
Alors là, le foyer des émissions... bien placé en fonction de la maison 10, c'est pas dans la maison 3.
Ah, justement. Justement.
Il y en a voyé de 4 en 10.
Oui, c'est le renvoi, c'est ça. Il n'y a rien de plus illustratif et donc de plus riche d'enseignement que de faire l'opposition. Le jeu dans l'opposition. Le jeu dans l'opposition. Alors voyez-vous, quand on a personne qui a le cancer pour la 10e maison, on sait tout de suite que cette personne aspire à exploiter ses émotions dans la vie. Elle exploite ce capital, ce capital de conscience. Elle n'est pas tellement intéressée à son être qu'à travers l'exploitation de son capital de conscience, d'émotion. Et voilà pourquoi tellement d'artistes dans les arts émotifs, le chant, les professeurs de chant, ce domaine surtout, ont le cancer sur le milieu du ciel. Parce qu'ils cherchent à utiliser à fond le monde de leurs émotions. Et alors, au fond, c'est une façon de dire, je rentre dans le sein de ma mère. Je ne veux pas en sortir. Je m'y trouve très bien et je m'y développe très bien. Je m'y développe très bien. J'ai le temps de vous dire que ces gens-là ont des problèmes souvent avec Saturne. Parce qu'alors, quand Saturne se met à passer en 10e maison dessus, eh bien, alors tout à coup, on a, tout à coup, la carrière est coupée. On n'est plus capable de donner ce que l'on est habitué, on ne reçoit pas ce qu'on voulait recevoir. Il y a un arrêt net, il y a un vent glacé, et on est en train de mûrir. Pour la première fois, on ne se trouve plus à l'aise dans son monde. Alors on perd la popularité, et on se demande pourquoi. Et on fait le dégoûté, et on ne se rend pas compte que ce dégoût est un signe de maturation. Un signe de maturation. Oui, il faut donc bien se rendre compte que nous avons affaire ici, dans la croix cardinale, à la combinaison constante de la gravitation de la Terre autour du Soleil, qui est représentée là par le Capricorne, qui indique tout le temps que la Terre gravite autour du Soleil, et les Capricorniens le savent. Ils ne gravitent pas autour de la Lune. Ils gravitent autour du Soleil. Ils savent que ça, c'est l'axe. Et de ça, on ne démarre pas. Pour ça, ils sont très solides, parce que, alors, ici, il ne s'agit pas que ce soit qu'on fiche le camp sur l'orbite de la Lune, mais au contraire, il s'agit que la Terre respecte d'être, elle, le satellite du Soleil, n'est-ce pas? Alors là, on est vraiment le satellite de quelque chose de plus grand que soi, et on le sent. Dans le Capricorne, on sait où est son maître. On le sait, puisqu'on lui tourne autour. Tandis que dans la balance, la question, c'est le point névralgique de savoir si notre maître, c'est la Lune, ou si c'est le Soleil. Si c'est la gravitation de la Lune autour de la Terre qui nous entraîne trop, Ou alors, si nous allons vraiment, normalement, entraîner cette gravitation de la Lune autour de nous dans la gravitation de nous autour du Soleil. Passer d'un champ de gravitation à un autre, ça se fait ça dans la septième maison. Car la septième maison représentera toujours l'équateur comme la première, et ça représentera le jeu maximum de l'orbital de la Lune. Le jeu maximum. C'est le point névralgique où l'on passe de la puissance de la conscience et des émotions à la puissance du principe solaire. C'est-à-dire où l'on revient à soi. Où l'on revient à soi. Il nous faut bien nous rendre compte que chacun de nous joue à son plan, joue le même jeu à son propre plan que joue la Terre à son propre plan. C'est absolument passionnant à suivre. Le prototype de l'opération que je viens de vous raconter maintenant, se trouve exactement dans l'enjeu pour la Terre de savoir si elle sera désorbitée par sa Lune ou si elle, orbitée admirablement au Soleil, saura prendre sa Lune dans sa suite. Si la Terre et la Terre l'a réussi. Vous pensez bien qu'il n'y aurait pas de Terre si elle n'avait pas réussi le coup. Si les forces, les principes en jeu, si l'âme de la Terre, car la Terre a son soleil, a son centre, la Terre est un soleil, il n'y a que des soleils. La Terre est un soleil, et si la Terre étant un soleil, elle naît. Et quand vous mettez votre soleil dans votre terre, ne sachez bien que vous mettez là la terre dans votre terre. Tout le thème, c'est la terre, d'accord? Et il ne faut pas encore, comme une certaine astrologue de Paris dans les années dernières, mettez encore la terre quelque part dans le thème. Alors on se demandait où était le thème. Ou alors, où était le thème, s'il vous plaît? Bon, où était le thème? Non. C'est votre soleil est un soleil terrien. Il fait partie de ce monde, de cette âme de la terre, qui est le soleil de la terre, beaucoup plus grand que votre soleil, bien entendu. Et que le corps de la terre, particulièrement ce corps auquel vous pouvez le mesurer, sur lequel vous marchez, le corps de la Terre, disons son épiderme alors, l'épiderme de ce corps, mais c'est alors donc son corps, est dû, précisément, a été créé, a été engendré, a grandi, la Terre grandit, elle ne diminue pas, elle grandit tout le temps, lentement mais sûrement elle grandit, et elle grandit grâce au jeu de la Lune d'une part et au jeu du Soleil de l'autre. La combinaison des jeux fait croître la Terre comme la combinaison des deux dans la croix cardinale nous fait croître. Comme la combinaison nous fait croître. Nous croissons comme nous croissons parce que la Terre fait la même chose. Son opération à elle est prototype de l'amour. Prototype de l'amour. De sorte que graduellement, à mesure que vous devez être conscient de la vôtre, vous pouvez maintenant, lentement, entrer dans le rôle historique, géologique, astronomique de la vie même de la Terre. Analogiquement, c'est la même chose. Analogiquement, c'est la même chose. Les astronomes spéculent. Je ne veux pas peut-être aujourd'hui aller un peu plus loin encore là-dedans. Je dirais quelques mots seulement pour vous lancer dans quelques suggestions. Les astrologues spéculent, ont toujours spéculé, mais ils spéculent encore sur les origines de la Terre et de la Lune. Il y a une école à laquelle je ne saurai certainement pas, qui s'imagine que la Lune est sortie de la Terre. Il y a eu bouleversement alors astronomique, et que dans ce bouleversement, mon Dieu, une partie de la Terre a été arrachée d'elle, et puis elle est restée dans l'espace sous la forme de la Lune. Théorie purement mécanique. C'est une hypothèse. Rien ne nous justifie. Il y a des apparences pour dire que oui, mais que ce sont des apparences. C'est par la connaissance de l'astrologie que l'astronomie saura définitivement que ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, la Lune a été présente avant la Terre. Avant la Terre. Le premier des deux astres, par rapport au Soleil, c'était une Lune. Et la Terre, précisément, a été un germe placé à zéro du conseil dans le monde lunaire, a été placé là, et graduellement la Terre a grandi pour devenir ce qu'elle est. C'est donc la Lune d'abord, comme nous commençons d'abord avec la Lune. Nous partons dans l'existence à zéro du conseil. Et nous, la Terre, nous croissons et nous rattrapons dans l'histoire de quelques mois toute l'histoire de la Terre, en quelque sorte, de son passé. Quand nous sommes adultes, nous arrivons à comprendre enfin qu'est-ce qui s'était passé avant nous. Nous répétons toute l'opération, comme les 9 mois de gestation d'un enfant répètent toute l'opération de l'espèce de sa formation. Et il faut comprendre ça. Si vous voulez comprendre clairement le signe du taureau, car maintenant j'introduis l'élément terre. Alors ce n'est pas la terre du Capricorne qui est le résultat de cohésion acquis par l'extraction R de ce qui était dans l'inconscient des émotions. Toutes les émotions, être dans l'inconscient, c'est d'être dessous de l'émotion, c'est d'être à proie de l'émotion. Mais ce n'est pas le Capricorne qui est le fruit, la terre est le fruit de ça. Le Capricorne, c'est la terre qui sort des eaux du Scorpion. Hein, c'est une toute autre histoire. Pas croire que le schéma est aussi simple que ça. Ça pourrait être trop facile, trop simple. Se méfier des schémas simples en astrologie. Non. La récompense que vous avez, lorsque vous avez réellement pu sortir de vous dégager de l'inconscient de vos émotions, lorsque vous avez voulu maître de vos émotions, lorsque non, vous les avez simplement compris. Et du moment où vous avez compris, c'est que vous allez en être le maître. Or, comprendre vos émotions, comprendre le rapport entre la Lune, l'existence, la conscience et l'être, comprendre le rapport, donc balance, c'est se saisir de votre Lune, c'est se saisir du foyer de vos émotions, c'est se saisir de la femme qui est votre compagne ici à votre soleil, c'est de la saisir et graduellement en la saisissant de lui dire merci pour être ce que tu es parce que tu me donnes ici l'occasion de grandir à la dimension que tu m'offres. Je n'ai pas ta taille, mais je suis en puissance à la hauteur de ta taille. À la hauteur de ta taille en puissance, en puissance. et l'orbite de la Lune par rapport à la Terre, c'est encore la matrice dans laquelle est la gestation même de la Terre elle-même. L'orbite de la Lune n'est pas autre chose que la matrice qui nous reste, de laquelle il nous reste encore à sortir. Et vous voyez bien qu'il n'est pas question vraiment d'en sortir, mais il est question de n'avoir plus besoin d'une matrice. Nous aurions assimilé la matrice, elle serait devenue nous-mêmes. Or, le signe du taureau, c'est le signe qui marque dans sa solidité la somme d'eau, la somme de lune, la somme de l'espace entre la lune et nous, qui est devenue entièrement asséchée, assimilée, et qui maintenant n'est plus à la lune, mais est à nous. Le taureau appartient à la terre, et n'est plus à la lune. Par la grâce de l'action de la balance, l'être solaire s'est saisi du rapport, et du moment qu'il s'est saisi du rapport, il y a jeté la puissance centrale de l'être. Et la puissance centrale de l'être s'en emparant complètement, la solidifier dans un acquis plus grand, solide, de cohésion, de fixation finale, éternelle, définitive, terre-taureau. Et voilà pourquoi c'est là que se trouve l'exaltation de la lune. Pour comprendre.
Exactement.
Car la conception du temps dans un signe de feu est tout autre que dans un signe d'eau. Ça va de soi. Ça, ce sera le sujet de conférence en automne où je vais interpréter tout le thème en fonction du temps.
Mais pardon, vous avez dit que ça veut dire la mort, c'est la perte de la conscience, mais ça c'est seulement relativement.
Mais naturellement, je n'ai pas dit que c'est la perte de la vie qui est l'être. La perte, c'est un changement de conscience. Donc c'est une perte d'une conscience. C'est-à-dire que c'est la perte d'un état.
C'est la perte d'une manière d'être. La conscience, l'existence étant une manière d'être, n'est-ce pas? Quand vous avez dit, oh, j'ai complètement maintenant changé d'existence, j'ai été vivre dans un autre continent, etc., etc., vous avez changé de manière d'être. Et cela vous a plu. Ou alors ça vous a déplu, et vous avez cherché à revenir où vous étiez pour récupérer l'ancienne manière d'être, c'est-à-dire l'ancienne. Et là, le vis-à-vis avec vous-même, le dialogue que vous faites tout le temps avec vos émotions. Est-ce que vous vous rendez compte que vous dialoguez avec vos émotions? C'est un dialogue entre vous et vos émotions. Quand vous vous parlez à vous-même, vous parlez à vos émotions. C'est l'être qui parle à son existence. Parce que c'est l'existence qui apporte à l'être les choses du dehors. Et que ça passe par l'existence, c'est-à-dire par la conscience, par conséquent par la lune. Et que ça lui vient. Et maintenant, il dialogue avec ce qui lui vient. Et c'est ce dialogue perpétuel qui est le jeu des signes d'air. C'est-à-dire tout exactement le signe du Mercure, ici, le Gémeaux. Il fait le premier dialogue avec tout ce que la sensation, car la sensation, c'est déjà l'émotion. C'est le monde de l'émotion. Et ce monde si riche et si vital et si important, à condition que nous sachions toujours maintenir le dialogue avec lui et ne jamais le laisser parler tout seul, parce qu'il ne parlera plus du tout, il n'y aura plus personne. C'est clair, ça. Oui. Vous êtes très riche d'émotions, monsieur Mélanie. C'est ça. Eh bien, c'est très beau d'être riche d'émotions. Parce qu'au moins, il y a une chose de vrai. Avec les émotions, on n'est jamais indifférent. Parce que précisément, comment? Ah, si vous voulez, bien, on n'est jamais indifférent. Si une chose est, cela doit nous faire une différence. C'est le départ de tout. Si une chose est et qu'elle ne nous fait pas de différence, nous sommes dans l'inconscient. Nous sommes dans l'inconscient. Par rapport à cette réalité devant nous, si nous n'en prenons pas conscience, c'est-à-dire si nous restons indifférents à elle. Tout ce qui est doit produire en nous un état différent. Et c'est tout le jeu des forces de votre nature de produire des états différents devant un objet qui est nouveau pour vous. C'est notre réaction à l'objet. Mais toujours, l'informateur de cet objet, pour nous, c'est l'émotion. C'est la télépathie de la sensibilité, à tous les degrés de cette télépathie. La sensation est une télépathie. D'où l'importance dans un thème d'avoir une très bonne lune, parce qu'elle va servir cela admirablement, alors qu'une mauvaise lune va toujours déformer la façon dont l'objet se présente à notre soleil, c'est-à-dire à notre être. Et par conséquent, c'est un mauvais reportage, l'objet ne se présente pas dans sa nature propre, il y a un état subjectif qui vient d'une mauvaise lune, qui nous fait voir les choses autrement qu'elles ne sont. Par conséquent, notre riposte n'est pas vraiment la riposte appropriée à l'objet qui nous sollicite et qui nous irrite. Bien. Alors, je continue. C'était aussi énorme ce que je disais l'autre jour. L'être et la conscience ne sont pas synonymes. Tout se passe dans notre univers. Comme si l'être n'était qu'un état de puissance et dépendait de la conscience pour s'éveiller à l'extériorisation de son potentiel. C'est comme si ce qu'il avait en puissance ne sortira de lui-même qu'à la condition qu'il lui soit donné la conscience qu'il est. C'est tellement prodigieux, ça. C'est tellement prodigieux. Alors, le thème astrologique nous montre tout le temps qu'il nous est apporté successivement des consciences des choses par lesquelles tout à coup se révèle se réveille en nous, dans le soleil de nous, dans l'être de nous, dans le feu de nous, quelque chose qui y était, parce qu'il est clair que si il vous vient, si la conscience l'éveil, si la conscience vous est donnée de quelque chose et que vous n'avez pas en vous le corrélatif à ça, l'équivalent à ça au fond de votre soleil, de votre être, vous allez être sans réplique, sans réponse, et que en réalité, vous disparaissez à ce moment-là du champ de l'existence, c'est encore une forme de la mort. Tout le temps, tout ce qui est autour de vous, vous donnant la conscience que c'est là, vous sollicite immédiatement de faire surgir du fond de votre bagage historique de votre âme un élément que, par quoi vous faites le dialogue avec cette chose, et en faisant ce dialogue, vous vous dites à vous-même, mais tiens, regarde-toi, tu as des choses que tu ne soupçonnais pas en toi, les voilà qui sortent. Voilà qui sort. Mais ça ne sortira jamais autrement. C'est ça, si l'on veut, le mystère des choses. C'est que sans la conscience, la vie, l'être, ne se connaît pas. Il lui faut la dualité pour se connaître. C'est tout le mystère de la dualité. Pourquoi la dualité? Nous laissons ça, c'est un problème très ardu de métaphysique, mais toute l'astrologie repose dans sa pratique, en tout cas, dans le jeu général, et tant qu'il y a un zodiaque, elle repose sur la dualité. Et c'est cette dualité sacrée qui va permettre, par la prise de conscience de l'autre, que vous êtes, car vous ne savez que vous êtes que par la conscience que l'autre est. Vous ne savez que vous êtes, mais vous ne le savez pas. Et vous ne savez que vous êtes en prenant conscience de l'autre, c'est-à-dire de l'objet. Vous êtes toujours le sujet, et il doit y avoir un objet, sinon le sujet ne sera même pas conscient qu'il est sujet. Est-ce que je me fais comprendre? C'est absolument capital. Absolument capital. Ainsi, ça va très loin, ça. Ça va très très loin. Ça va très haut. Lorsque vous avez une apparition de Jésus-Christ, il y en a qui l'ont. J'en connais qui l'ont. Lorsque vous avez une apparition de la Vierge Marie, comprenez bien, il s'agit en réalité de vous donner la conscience de Marie. La conscience de Jésus-Christ. Ce qui est important dans le phénomène, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Marie, c'est la conscience de ces deux archétypes, de ces deux principes fondamentaux dans le monde, dans notre monde. Et en prenant conscience d'eux, vous découvrez, puisque vous en avez pu prendre la conscience, et que vous avez pu dire, ça, c'est Jésus. Ça, c'est Marie. Adam donne le nom, c'est-à-dire il prend la conscience de la chose. Et s'il a pris la conscience de la chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Jésus qui est dans son âme, dans son être, et la Vierge qui est dans son être, elle-même, c'est manifesté. Autrement dit, il n'y a d'apparition de Jésus, de Marie ou d'un saint quelconque que pour vous révéler son équivalence dans votre propre être.
La plus belle expression, c'est l'amour.
Eh, évidemment. Vous me comprenez, monsieur Mélenchon?
Je vous comprends très bien.
Quand quelqu'un me dit, et naturellement, normalement bouleversé, mais la Sainte Vierge s'est présentée à lui ou à elle, et n'a rien dit, n'a pas même fait un geste, ou bien elle a fait un geste, ou elle a souri. En réalité, je sais tout de suite que c'est le moment dans le développement de cet être où il lui a été donné, là, par les signes d'air, signes de transmission, lui a été donné une équivalence de ce qui va maintenant prendre corps en lui, sortant de lui-même. Car en réalité, l'autre donne peu, c'est une auto-génération en soi-même. Car le jeu de la solidarité, c'est une combinaison de dons, mais essentiellement à la base, on voit que c'est quelque chose qui sort du fond de notre âme. Car dans l'histoire de notre soleil, dans l'histoire de notre être, il y a aussi tous les autres êtres. Et que nous ne savons pas qu'ils sont là. C'est une forme, cela, de l'inconscient du poisson, mais non pas du cancer. Voilà pour cette chose, ce sujet capital, conscience de l'être purement latent sans la conscience, et naturellement la conscience n'ayant aucune raison d'exister, il n'y a pas d'être. Elle est là pour l'être. Et c'est la hiérarchie naturelle. Alors maintenant, passons. L'eau du cancer. L'eau du cancer, c'est l'eau la plus simple. La plus simple. Parce que si vous, maintenant, vous la regardez avec des yeux de l'intelligence, si vous allez maintenant y mettre le Gémeaux là-dedans, y voir clair, pas dans cette eau, vous allez voir que c'est en réalité uniquement le monde de l'émotion, le monde de la sensibilité, le monde de la sensation, et que quand tout est dit, c'est assez monolithique, assez élémentaire. C'est toujours en réalité le même matériel de l'émotion. C'est toujours le même matériel qui est en jeu, on n'en sort pas, c'est ça. Alors que dans l'eau du scorpion, c'est autre chose, et dans l'eau du poisson, c'est encore autre chose. Mais dans l'eau du cancer, c'est un élément très simple. Extraordinairement riche, oui. Mais de toujours fondamentalement la même chose. Car en réalité, l'eau du cancer a pour fonction de permettre la germination de l'existence solaire, c'est-à-dire l'incarnation. L'enfant, le soleil qui vient au monde dans le cancer. Il vient au monde dans la matrice de sa mère, mais il vient au monde précisément dans la coupe même, dans un foyer d'émotions, d'une émotion extrêmement simple dans sa nature, pas du tout complexe, qui n'a pour but que de lui permettre de grandir et de devenir adulte. Le cancer passe tout à fait au second plan, comme une mère passe au second plan, comme la famille du passé pour l'enfant passe au second plan, lorsqu'il devient adulte et qu'il a une famille lui-même. L'eau du cancer est une eau qui est capitale au départ de la vie et qui doit savoir devenir, jamais se retirer, mais devenir secondaire dès la pleine maturité. Si elle n'est pas devenue secondaire, si elle reste toujours l'eau capitale de votre existence, alors vous restez toujours encore en état de germination. Vous n'êtes pas encore un adulte, et voilà pourquoi tant de gens qui sont très fortement cancer ont une juvénilité extraordinairement prolongée. N'est-ce pas? Juvénilité prolongée, une fraîche chair prolongée, parce que si l'on regarde de près, ils sont dépendants des valeurs nourricières et protectrices de leurs émotions. De leurs émotions. Et que dans tous les milieux où ils vont, ils ont une tendance à apprécier particulièrement que leur sensibilité qui entre en jeu, et si cette sensibilité n'est pas froissée, au contraire, si elle se trouve à l'aise, alors le reportage qu'elle fait à l'être, là au soleil qui est derrière, dire comme on est bien ici. Alors forcément, il s'y attarde d'autant plus longtemps, n'est-ce pas? Et ne vont pas là où ils ne sont pas bien. D'où alors on dira des cancériens, ils sont des conservateurs, ils sont un peu des timides, un peu quelquefois des poltrons, ils n'aiment pas s'engager parce qu'ils ont peur de ce qui arriverait à leurs émotions, en changer complètement le régime. C'est ça. Vous êtes cancérien, monsieur? Moi aussi, soyez tranquille, je parle en toute connaissance de cause, je le suis aussi.
Mais la timidité, quand même, vous la majorité, c'est très timide.
Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Mesdames, je n'ai pas le plaisir de vous connaître encore. Ceci, vous suivez ça depuis longtemps, l'astrologie, vous-même? Vous, un mois et demi? Oh, sainte mère de Dieu. Mais la dame qui est ici, madame, vous. Oui, vous. Et longtemps que vous êtes dans l'astrologie, vous? Ah bon, alors ça me fait. Ça m'aide à me placer un peu quand même.
Elle en a fait beaucoup.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Voyez-vous, c'est tellement évident que l'eau du cancer, c'est donc les émotions, mais précisément parce que les émotions ne sont pas elles-mêmes, ne se présentent pas elles-mêmes comme des enseignements. L'émotion ne parle pas la langue de la pensée. C'est vous qui dites aux émotions, c'est vous qui donnez à vos émotions des images de personnalité, c'est vous qui leur prêtez des masques à vos émotions. Mais d'elles-mêmes, elles n'en ont pas du tout. L'émotion est une chose extraordinairement plastique, malléable. C'est fluide, c'est de l'eau. C'est vous qui allez sculpter ça. C'est votre feu qui va travailler dedans. Vous êtes le sculpteur de votre émotion. Jamais votre émotion vous sculptera si vous êtes un être normal. Mais vous aurez toujours le matériel propre au sculpteur. Propre au sculpteur. Et cette eau prendra cette émotion. Elle prendra l'image que vous lui donnerez. Elle n'en prendra jamais une autre. Elle est neutre. Voilà pourquoi on a dit de la lune, c'est-à-dire de l'entité émotion dans notre être, on a dit d'elle qu'elle est convertible. Elle fera n'importe quoi de ce que vous lui dites de faire. Seulement, comme vous lui parlez vous-même, beaucoup plus dans votre inconscient que dans votre conscient. Vous êtes très étonné des choses qu'elle vous renvoie. Je vous dis, mais c'est quand même extraordinaire que mes émotions me font voir les choses comme ça. Pourquoi est-ce que je les vois comme ça? C'est que quelque chose au fond de vous a dit aux émotions, montre ça comme ça. L'émotion a obéi et le conscient attrape maintenant par reflet ce que votre inconscient a donné à l'émotion, l'émotion vous le renvoie et vous êtes tout épaté et tout désorienté. Voilà pourquoi les signes, l'inconscient joue un rôle énorme dans le rapport, l'inconscient de l'âme, alors attention ici, l'inconscient scorpion, l'inconscient poisson, joue un rôle énorme avec l'inconscient de la lune, parce que alors ici, le conscient a une peine énorme à saisir, et
le travail souterrain qui se fait. Le travail souterrain qui se fait. Or, encore un mot sur cette question capitale, l'enfant, le principe de l'enfant, et le principe donc de l'enfant éternel, et nous allons le voir immédiatement à l'œil, tout le temps. Il y a vous, l'être, et l'être est toujours masculin. Par rapport à l'émotion, par rapport à l'existence, il est l'être, et il est donc l'existence est toujours féminine, l'être est toujours masculin. Voilà pourquoi l'existence tourne autour de l'être, ou le suit toujours lorsqu'il tourne sur lui-même, mais lui ne tournera jamais autour de son existence. Comme la lune tourne autour de nous, c'est nos émotions qui tournent autour de nous. Nous les avons de tout. Où que nous nous tournions, nous avons nos émotions avec nous. Elles sont orbitales par rapport à l'axe de notre être. De notre vie, sont orbitales. Mais, c'est par elles que nous entrons en contact les uns avec les autres. Il n'y avait pas votre lune et la mienne, nous ne pourrions même pas nous savoir, nous ne serions pas conscients que nous sommes ici. Alors, maintenant, quand vous parlez à votre émotion, parce que votre émotion vous apporte quelque chose. Mais vous avez immédiatement le droit, et le droit, évidemment, et vous l'appliquez bien, Dieu sait, de dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive, là? Qu'est-ce qui vient? Ou bien c'est grossi comme ça, parce que vous avez une nature émotive qui grossit tout, ou alors c'est très rétréci, lune capricorne, et c'est très rétréci, et ça n'amène pas la dilatation normale, l'ampleur normale. Vous ne les voyez pas assez les choses comme elles devraient être vues, ou alors vous les voyez beaucoup trop, vous les exagérez. Un Jupiter carré la Lune amplifie beaucoup trop ses sensations, et les choses qui lui sont suggérés par ces sensations prennent tout de suite la forme Jupiter carré la Lune, tandis qu'au contraire, un Saturne conjoint la Lune, un Saturne carré la Lune, c'est plutôt restrictif, c'est restrictif. C'est une contrainte de l'émotion instantanée. L'autre, c'est une expansion de l'émotion, l'autre, c'est une contrainte. Et je reviens à ce principe dans l'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte que vous engendrez par le mariage que vous faites continuellement avec votre émotion, avec votre sensibilité, que vous ne pouvez jamais rien voir hors de vous qu'à travers votre sensibilité, que la sensibilité, c'est la femme, et que l'objet qui parle à la femme est derrière elle et que c'est le serpent qui est derrière la femme, et qui dit à la femme ce que la femme doit donner à moi, le soleil, Adam. Et là, elle lui tend la pomme. Adam la prend ou ne la prend pas. C'est lui la souveraineté finale. C'est lui la décision. Jamais la femme, jamais l'existence, jamais la lune, jamais l'émotion n'a la décision. C'est nous qui avons la décision. Mais suivant la nature de ce fameux « nous », alors, si l'on accepte, à ce moment-là, on s'est uni à nos émotions. On a fait un mariage avec nos sensibilités. Et le résultat instantané de ça, c'est une idée, c'est un Mercure, c'est un enfant, c'est l'enfant de notre union entre notre être et notre existence. C'est l'enfant de notre union entre l'être et sa conscience d'être, qui est son épouse et sa compagne. D'où nous engendrons de minute en minute des enfants nouveaux qui sont nés du mariage de notre être avec nos émotions. Ainsi, je descends l'avenue Mozart, que maintenant vous connaissez. Je descends l'avenue Mozart. Et ma sensibilité est informée de la qualité des murs, plus ou moins clairs et bien, et du passage des gens. Et c'est surtout la rue. Quand vous dites, oh, j'aime pas cette rue, j'aime pas ce quartier, ça me déprime. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Votre sensibilité vous avez dû, étant dans le quartier, vous avez dû engendrer des enfants avec les émotions que ce quartier vous donnait. Et vous n'aimez pas les enfants que vous avez engendrés, pour vous, ce sont des monstres. Et comme normalement vous ne rêvez qu'une chose, c'est d'avoir des enfants normaux, puisqu'en somme vous avez une tête normale, un mental normal, ce mental normal n'acceptera pas qu'il y ait des manteaux anormaux dans le train de vos pensées. Or, passer dans un quartier abominable pour vous, si vous êtes impressionné, si vous n'êtes pas impressionné, ça va, mais si vous êtes impressionné, vous voilà en train d'engendrer une ribambelle d'enfants, et quand vous sortez du quartier, vous les avez sur les bras. Alors, ce que vous appelez des idées noires. Voilà les idées noires. Bien. En contraire, des idées claires. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. J'ai un jour eu un rêve magnifique pour me rendre ça définitivement clair à moi-même, ce jeu de l'être et de l'existence et de la conscience. Ici, rôle soleil-lune. Un jour, je rêve, c'était à l'époque où je n'habitais plus Paris et où j'y venais précisément pour des raisons comme celle-ci, mais à une époque où mon propre état, mon soleil lui-même, n'était pas en état d'engendrer trop facilement, d'imposer à son épouse la conscience, ce qu'il voulait. Alors, remarquez comment votre sensibilité pompe, comme il y a adhérence à votre sensibilité, tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, je sortais de Paris généralement déprimé, que j'avais vu de Paris. Déprimé. Alors, c'est très simple. En bonjour, j'ai un rêve. Je suis dans une chambre et il y a un divan ici sur la gauche et une très jolie jeune femme y repose et y dort. Bon, je ne la connais pas autrement. Mais tout d'un coup, quelque chose me dit, sais-tu qu'elle est enceinte de toi? Alors moi, je me dis, je la regarde une seconde, c'est pas possible. C'est pas possible. Me voilà dans un beau pétrin. Me voilà dans un Thierry pétrin. Ben, comment est-ce que j'aurais fait une folie pareille dans... C'est pas dans ma nature, ces histoires-là. Et puis, mais comment, quelle aberration. Et là-dessus, je suis réveillé, autant vous dire, immensément soulagé de savoir que ça n'avait été qu'un rêve. Mais ça a duré assez longtemps pour avoir des résonances en moi et me faire réfléchir. Alors, dès que j'ai réveillé, j'ai souri, j'ai dit, mes maîtres sont merveilleux. Ils m'ont voulu donner d'une façon absolument concrète cette expérience constamment que nous faisons d'épouser la femme, c'est-à-dire l'émotion. L'émotion qui nous offre les choses de la vie, par laquelle nous cherchons les choses de la vie, et qu'il ne s'agit pas et qu'au fond, il faut faire très attention de ne pas épouser mes émotions si je ne veux pas en avoir d'enfant. Donc d'être indifférent à son émotion, d'être indifférent
aspirons à son émotion.
Alors l'émotion restera stérile, elle n'enfantera rien et vous n'aurez pas à porter les conséquences. Vous me faites comprendre, madame?
Comment se rendre maître de ces émotions?
Ah ben, alors ça, c'est le secret de votre nature, chère madame. C'est exactement ce que vous allez découvrir en vivant. C'est en vivant que vous allez découvrir ça. Comment s'en rendre maître? Vous n'avez qu'à faire l'inventaire des outils dont vous disposez en vous-même pour manœuvrer ça. Mais ça, c'est le rapport lune-soleil. L'être et la lune. Et ça, tout de suite, c'est le monde du cancer.